Salut tout le monde, juste pour vous dire que vous pouvez rejoindre le Patreon du podcast qui est de nouveau actif, tranquillement, je suis de plus en plus actif, mais il y a plus d'un an, si je me trompe pas, de contenu bonus, de contenu exclusif, où est-ce qu'on parle de d'autres choses que des disparitions mystérieuses, mais tout ce qui touche au mystère, au true crime, que ce soit des histoires de morts mystérieuses, des histoires... de meurtres, des histoires, de plein de choses différentes. Très intéressant. Ça coûte seulement 3$ par mois, puis vous avez une tonne de podcasts que vous allez pouvoir écouter. C'est merveilleux. Puis moi, ben ça me supporte. C'est la seule façon, parce que je fais aucun argent avec le podcast. Je vous publie des contenus gratuits, comme là, je vous mets encore 10 épisodes de Disparition mystérieuse gratuitement. Donc, si vraiment vous voulez aider à soutenir le podcast, allez sur patreon.com/volatilisé podcast. Sinon, téléchargez l'application mobile Patreon et vous allez pouvoir rentrer dans la barre de recherche volatilisé podcast. Vous allez tomber sur le podcast et abonnez-vous. Ça fait très, très, très plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite un bon épisode, un très bon épisode aujourd'hui. On se retrouve à très bientôt, dans quelques secondes. Salut tout le monde! Volatilisé. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Bienvenue sur le 3e épisode de la 8e saison officielle du podcast, là où on parle de disparitions mystérieuses. Très heureux d'être de retour pour un nouvel épisode. Comme vous le savez, il y a 10 épisodes par saison. Nous sommes au 3e épisode, donc il va encore avoir en masse d'épisodes à sortir. Aujourd'hui, très heureux de vous présenter une disparition qui date quand même de 30 ans. Une disparition assez spéciale, une disparition... qui est très mystérieuse, la disparition de Catherine Eggleston. De son vrai nom, Catherine Scott Eggleston. Elle est née le 4 mai 1971 à Redmond, dans l'Oregon, aux États-Unis. Donc, je vous souhaite un bon podcast. On commence ça. Et c'est parti. Donc, comme j'ai mentionné, Catherine Scott Eggleston... elle est née à Redmond, dans l'Oregon, le 4 mai 1971. Son papa, Paul, c'est un ancien professeur du lycée, du lycée de Seattle, en fait. C'est aussi un ancien surintendant du district scolaire de Redmond. Et sa mère, Heather... C'est une ancienne enseignante du primaire, tout simplement. Donc, les deux parents, c'est des professeurs. Ils sont quatre enfants, quatre filles. Donc, Catherine, c'est l'une des quatre filles. Et on la surnommait Cathy. Évidemment, elle a été élevée là où elle est née, c'est-à-dire à Redmond. Catherine a fréquenté l'Université d'État de l'Oregon, à Corvallis, là où elle était d'ailleurs membre de la sororité Alpha Chi Omega, c'est une fraternité féminine nationale basée là-bas, donc voilà. Elle va finalement être diplômée au printemps 1993, obtenant un baccalauréat d'art en anglais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après avoir obtenu, dans le fond, son diplôme universitaire, Catherine va déménager à Gresham, dans l'Oregon. C'est une banlieue de Portland. Là où elle va habiter avec sa sœur aînée, Jeannette, qui, elle, était alors âgée de 37 ans. Elle va accepter un emploi chez Allnet Communication Services, qui est une société de télécommunications basée à Lake Oswego. Et elle a été engagée comme étant une vendeuse. Donc, Donc, elle va faire ce poste-là. Et ça semble bien aller. Le matin du 2 août 1993, elle a quitté le bureau de Lake Oswego, de la compagnie, pour assister à une réunion d'affaires à Portland, avant de s'arrêter à plusieurs entreprises sur Northeast Whitaker Way. C'était le premier jour de Catherine faisant des visites de vente seule. Donc, tu sais, sa formation était terminée et c'était sa première journée où est-ce qu'elle était seule et qu'elle allait voir des clients seule. Premièrement, elle s'est arrêtée dans une banque. Par la suite, une station-service. Et elle va aller finalement déjeuner dans un restaurant. Je dis déjeuner, mais c'est plutôt dîner parce que c'est au Burger King, près du Lloyd Center, dans le Lloyd District. Peu de temps après ça, Catherine est arrivée au bâtiment 700. Dans le fond, au 700 Northeast Multnomah Street. Je recommence. Le 700 Northeast Multnomah Street. Bref, elle arrive là, qui est environ deux pâtés de maison du Lloyd Center. Donc, tant qu'à avoir un rendez-vous là, ben, elle est arrêtée au Lloyd Center pour dîner. Puis là, après ça, elle avait son rendez-vous d'affaires. Elle a été vue en train de passer des appels téléphoniques dans le hall de l'immeuble. Et cinq témoins individuels qui l'ont vue là-bas vont déclarer aux autorités qu'elle semblait préoccupée, inquiète, nerveuse. Vers 14h15, l'homme avec qui Catherine avait eu son rendez-vous va la voir sortir d'un ascenseur dans le hall avec un homme portant un blazer bleu. Le client a décrit l'inconnu comme ayant les cheveux foncés et le teint foncé. Après ça, plus rien. C'est la dernière fois qu'on va voir Catherine Eggleston en vie. L'absence de Catherine a été notée pour la première fois lorsqu'elle n'est pas retournée au bureau, hein, là où elle était censée rencontrer son conseiller à 17h. Et vers 17h, un témoin nommé John Davis va apercevoir sa voiture, qui est une Volkswagen grise, qui était toujours dans le parking du port de Portland. Donc, sa voiture n'avait pas bougé. En fait, sa voiture était toujours là, à la même endroit. Et quand Catherine n'a pas réussi à retourner dans la maison, évidemment, qu'elle partageait avec sa sœur Jeannette, eh bien, Jeannette était inquiète. Elle va informer leur père, Paul, qui, lui, s'est rendu dans la région de Portland depuis Redmond le 3 août, donc la même journée. Tout s'est déroulé la même journée. On va rechercher Catherine jusqu'aux petites heures du matin. Même qu'aux petites heures du matin du 3 août, un agent de sécurité d'un complexe industriel situé au nord-est de la 122e avenue et à l'aéroport va découvrir la Volkswagen de Catherine qui était garée sur le terrain à environ 14 km du bâtiment du port de Portland, là où elle a été vue pour la dernière fois près de l'aéroport international. Les portes de la voiture était déverrouillée, toutes ses fenêtres étaient baissées et les clés étaient toujours dans le contact. Son sac à main et son contenu personnel étaient dans la voiture, y compris un chéquier, des cartes de crédit, une petite somme d'argent liquide également, bien que son passeport, lui, soit toujours absent et qu'il n'a jamais été retrouvé. Les parents de Catherine ont noté qu'elle avait récupéré son passeport à leur résidence à Redmond lors d'une visite 10 jours auparavant. Donc, ce qui est étrange dans ce cas-là, c'est si elle prévoyait pas voyager, pourquoi elle a été chercher son passeport dans un sens, tu sais? Le 6 août, les champs situés à proximité ont été fouillés par des chercheurs bénévoles ainsi que d'autres sous-bois, d'autres routes de gravier, même des terres agricoles ont été fouillées également. Et ce qui est bien, c'est que Allnet, l'employeur de Catherine, va payer des recherches aériennes supplémentaires qui ont été suivies de recherches au sol également. Des recherches au sol, d'ailleurs, avec l'aide des chiens, là, des fameux chiens qui recherchent les personnes. Mais, malheureusement, on n'a rien trouvé malgré tous les efforts mis par tous les bénévoles et les autorités, la famille. Le 6 août, le porte-parole de la police de Portland, Derek Foxworth, va déclarer aux journalistes qu'il semble certainement... En fait, il semble convaincu qu'il pourrait avoir un homicide dans cette histoire-là. Mais on n'en sait pas plus. Donc là, ce qui est étrange, encore une fois, c'est le passeport. Elle a été chercher son passeport 10 jours avant. En même temps, je veux dire, elle avait quand même déménagé aussi, tu sais, ça peut juste être quelque chose comme tout ce qui me reste chez mes parents, mettons, c'est mon passeport, donc je vais aller le chercher. Et en même temps, mais je vais aller voir mes parents. Donc, tu sais, c'était peut-être ça aussi. Mais tu sais, 10 jours plus tard, elle disparaît. Sa voiture est retrouvée près de l'aéroport. Tu sais, plusieurs choses qui sont étranges. Évidemment, l'homme en question, qui a été vu, l'homme inconnu, que personne ne savait c'était qui portait quand même une belle tenue. Une belle tenue bleue. Est-ce que c'est quelqu'un... Je sais pas. T'sais, est-ce que c'est justement un client que qu'elle rencontrait? On sait pas, t'sais. Les parents de Catherine ont d'abord soupçonné son petit ami de l'époque, qui était un résident de Redmond. Sauf que ce petit ami-là en question, il a été innocenté par les forces de l'ordre, qui ont confirmé qu'il se trouvait dans le centre de l'Oregon au moment de sa dispersion. Donc son alibi a été confirmé finalement. Bien qu'initialement soupçonné d'homicide, le bureau de police de Portland va émettre l'hypothèse que Catherine aurait disparu intentionnellement. Faut savoir que Jeannette, la sœur de Catherine, était accusée, en fait, d'évasion fiscale. Donc, Jeannette et son ex-mari ont été accusés d'avoir omis de déclarer environ 190 000 $ de revenus d'entreprise entre 1986 et 1987. Donc, les polices pourraient croire que Catherine avait peur, en fait, d'aller témoigner en cours et elle aurait peut-être voulu disparaître volontairement. Bon, moi, je trouve ça un peu... Je trouve pas ça nécessairement béton comme raison, mais... je veux dire, ça changerait rien dans sa vie à elle. Elle serait pas plus en danger ou quoi que ce soit. Mais bref, de là à disparaître pour toujours parce que tu veux pas parler pour ou contre ta sœur en cours, tu sais, je sais pas. Mais bref, cette révélation-là, ça va encourager, disons, les détectives, les enquêteurs à se concentrer un peu sur ce motif comme étant un potentiel que Catherine ait fui. Parce qu'elle aurait peur, mettons, d'un conflit ou quoi que ce soit, tu sais, je sais pas. Mais bref, c'est ce que les enquêteurs pensent. Évidemment, le fait que ce soit un motif dans la disparition de Catherine, disons que ça crée aussi un conflit entre la famille et les enquêteurs, en particulier avec le détective principal, c'est-à-dire Terry Wagner. En entrevue, le père de Catherine, Paul, va déclarer plus tard que Terry Wagner, le détective principal, a clairement indiqué qu'elle n'allait pas nous parler, qu'elle croyait toujours que Catherine avait probablement disparu de sa propre volonté. En tout cas, j'ai lu la déclaration. En tout cas, je sais pas pourquoi que dans la déclaration, c'est au féminin, mais je crois que Paul, ce qu'il veut dire, c'est que Terry a clairement indiqué qu'il n'allait pas nous parler, qu'il croyait toujours que Catherine avait probablement disparu de sa propre volonté. Ça aurait peut-être plus de sens. Donc, en gros, la confiance se brisait tranquillement entre les détectives, les enquêteurs et la famille. C'est pour ça que la famille de Catherine vont ensuite embaucher un détective privé, un détective à la retraite. C'était dans le fond un détective de la police de l'État de l'Oregon. Sauf qu'eux, vu qu'il était à la retraite, mais ils l'ont comme engagé, privé. Puis ils l'ont engagé pour enquêter plus sur l'affaire de disparition et d'autres pistes, tu sais, toutes les pistes en fait. Pas juste se concentrer plus sur le fait qu'elle aurait pu s'enfuir et disparaître volontairement. Et là, l'une des pistes que le détective a emprunté, ça concernait un agent de sécurité qui possédait les clés du stationnement du bâtiment du port de Portland, là où la voiture a été retrouvée. Et pour poursuivre les efforts de recherche, la compagnie, l'employeur de Catherine, donc Allnet, va financer une ligne d'assistance téléphonique dédiée aux appels sur la disparition de Catherine. Ils vont faire en fait des dépliants, là, des affiches, qui promettaient une récompense de 5 000 $. Pour toutes sortes en fait d'informations qui pourraient lier à retrouver Catherine. Ces affiches-là vont être distribuées le long de l'autoroute 5 entre Eugene et Everett à Washington à la mi-août. Et là, il y a un appel anonyme qui va être passé, un appel à la ligne d'assistance téléphonique qui a été passé par un homme qui a affirmé avoir kidnappé Catherine et qu'il l'aurait assassiné 2 semaines après sa disparition. Donc, il aurait gardé Catherine kidnappée durant 2 semaines avant de la tuer. Donc ça, c'est ce qu'il a dit au téléphone. Et la personne anonyme qui aurait parlé avec un dialecte du Sud a déclaré qu'elle ne serait jamais retrouvée parce que je l'ai tuée. C'est ce qu'il a mentionné. Bon, dans ces cas-là, on le sait, il y a plusieurs canulars qui peuvent se faire. Il y a plusieurs canulars qui se font d'ailleurs sur pratiquement chaque disparition, ce qui est triste et inhumain. C'est très inhumain, en fait, d'appeler la famille, d'appeler, peu importe, la famille ou les gens qui travaillent avec la famille pour dire à leur fille ou à peu importe qu'il l'a tué ou... Tu sais, en tout cas, faire des canulars téléphoniques sur des personnes disparues, c'est vraiment horrible. Mais bref, ça peut... Je dis pas que c'est un faux appel, mais pour l'instant, ça reste comme ça. On n'a jamais vraiment su c'était qui, en fait, la personne. En octobre 1993, la police avait reçu des centaines de pistes dans cette affaire. Malheureusement, aucune de ces pistes s'est avérée fructueuse. Le 12 octobre, les forces de l'ordre ont déclaré aux médias qu'elles maintenaient leur position selon laquelle Catherine avait disparu volontairement, citant le manque de preuves physiques ainsi que le passeport qui manquait de Catherine, suggérant à nouveau qu'elle s'était enfuie pour éviter de témoigner contre sa sœur Jeannette. Cependant, Jeannette et son ex-mari Jeffrey avaient tous les deux plaidé coupable à leurs accusations le 9 juillet, renonçant à un procès, ce qui signifie que Catherine n'aurait pas eu à témoigner en premier lieu. Donc ça fait pas de sens, hein, tu sais. Voilà, ça fait pas de sens, dans le fond. Après sa condamnation le 12 octobre pour invasion fiscale, Jeannette a déclaré aux médias que son cas n'était pas lié à la disparition de sa sœur. Elle a dit « Insinuer un lien la ternit d'une manière qui me fait incroyablement mal. » C'est ce qu'elle a dit en entrevue. Et le père, lui, Paul, va commenter aux enquêteurs que Cathy est peut-être un témoin du gouvernement, mais sa contribution à l'affaire doit être minime. Elle n'en sait pas plus que Sarah sur les finances de Jeff, en fait. Je sais pas si vous comprenez, parce que, tu sais, c'est sketch, un peu, vu que Catherine est dans les finances et elle pourrait pas, comme... Tu sais, je comprends dans un sens que les enquêteurs veulent dire... C'est que c'est ça, Catherine, elle travaille dans les finances, et puis elle aurait comme, dans un sens, pas pu témoigner en faveur de sa sœur, tu sais, qui, elle, est accusée d'avoir fraudé plusieurs argents, disons, là, plusieurs argents, plusieurs centaines, cent quelques mille liers de dollars sur sa compagnie. Dans le fond, elle a comme pas déclaré certains revenus qu'elle avait. Donc, en gros, Catherine, selon les enquêteurs, elle avait peur de témoigner contre sa sœur. Donc, elle aurait juste décidé de fuir. Sauf que sa sœur, ainsi que son ex-mari, ont décidé de ne pas continuer à se battre pour ça, tu sais, à avoir un autre procès, etc. Parce que je pense que tous les deux étaient déjà conscients que ils allaient être, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, dans la merde. Donc, au final, Catherine n'aurait jamais eu besoin de parler en faveur ou en défaveur de sa sœur, tu sais. Le 4 mai 2001, c'était malheureusement, en fait, le 30e anniversaire de Catherine. Sa famille a mis en place une hotline. Donc, encore une fois, une ligne téléphonique cherchant des conseils supplémentaires sur sa disparition. Et il y a un homme qui a appelé, que lui, c'était un ancien préposé à une station-service qui était située au nord-est de la 122e avenue et de la rue Stark. Cet homme-là va affirmer avoir vu Catherine peu de temps après sa disparition. Une chose à savoir, c'est que cette station-service en question, elle est située à environ 6,4 km au sud de l'endroit où le véhicule de Catherine a été découvert. C'est quand même beaucoup de... C'est quand même long. 6 km quand t'es à pied. Le préposé va affirmer avoir donné à une femme qu'il croyait être Catherine des directions vers l'aéroport. Selon le préposé, elle est partie dans un véhicule dont il ne se souvenait ni de la marque, ni du modèle, ni de la couleur. Et peu de temps après, la femme est retournée à la station-service, mais cette fois dans une voiture différente. C'était une Honda bleu-vert qu'il décrit. Et elle était accompagnée de deux hommes noirs. Selon le préposé, la femme semblait partiellement déshabillée, semblait ébouriffée, semblait même pleurer ou avoir pleuré. Tu voyais que quelque chose n'allait pas. Et elle semblait faire des choses pour attirer l'attention. Comme, par exemple, conduire de façon erratique. Tu sais, elle semblait, en fait, réagir d'une manière qu'on la remarque. Le préposé a également noté que lorsque la femme était arrivée seule pour la première fois, il avait remarqué un épais livre noir sur le siège passager de sa voiture, ressemblant au classeur de vente utilisé par Allnet, la compagnie dont Catherine était vendeuse. Mais la position des forces de l'ordre selon laquelle Catherine a volontairement disparu a été maintenue. jusqu'à la disparition et le meurtre de Brooke Wilberger en 2004. C'était à Corvallis. Le meurtrier était Joel Courtney. Il était prétendument à Portland au moment de la disparition de Catherine et il est considéré comme un suspect possible dans cette affaire. En 2006, le FBI va annoncer que Joel Courtney avait été blanchi dans deux disparitions sans nom, bien que le père de Catherine ait dit qu'il avait été informé que Joel était toujours en cours d'examen en tant que suspect potentiel dans son cas. Donc, est-ce que le FBI a voulu cacher l'information? Je sais pas. La mère de Catherine est décédée malheureusement en juillet 2011, suivie de Paul en mars 2017. Les deux parents de Catherine ont toujours soutenu en fait l'hypothèse que leur fille avait été assassinée. À partir de 2021, ces allées et venues restent toujours inconnues et ça fait maintenant, comme j'ai dit, un bon 30 ans qu'elle est disparue. Ça va faire dans deux semaines au moment où j'enregistre, et au moment que ça sort même, dans pratiquement deux semaines, ça va faire 30 ans qu'elle est disparue. Toute information comme ça, elle faisait 1,63 m au moment de sa disparition, donc 5 pieds 4 pouces pour les Québécois qui écoutent. Et puis, c'est ça, elle avait des cheveux... c'est dur à dire, en fait, parce que la photo est en noir et blanc, la photo que j'ai d'elle, mais voilà, bref. Elle n'a quand même pas été revue depuis le 2 août 1993. Écoute, j'étais à plus de 6 ans d'être né, quand même. Et puis voilà, il n'y a pas d'autres informations sur cette histoire, du moins pas des informations si intéressantes que j'ai trouvées. Mais cette histoire-là est floue, dans un sens. Ben c'est pas qu'elle est floue, mais c'est qu'il y a tellement de choses de possibles. En même temps, il y a pas d'informations qui... Il y a vraiment rien, en fait. Y a rien. Tu sais, dans le sens, elle sort de l'ascenseur avec un homme, c'est tout. C'est tout. Y a pas d'autres informations. Donc, déjà, qu'elle semblait nerveuse, qu'elle semblait un peu, c'est ça, qu'elle semblait un peu inquiète, nerveuse. Ça, je peux comprendre. C'était sa première journée en tant que vendeuse. Et là, elle s'en allait voir des clients. Je peux comprendre qu'elle avait l'air un peu nerveuse, etc. Elle rencontre son client. Finalement, elle sort de l'ascenseur avec un homme qui était très bien habillé en bleu. Elle sort. Et c'est tout. On n'a rien d'elle. Tout ce qu'on sait, c'est que sa voiture est toujours à la même place. Ben, je pense qu'elle est toujours à la même place. Bref, sa voiture est comme au port de Portland, ou en tout cas près, dans un stationnement, là, dans un stationnement où est-ce que, tu sais, ça te prend quand même des clés pour... Dans un stationnement où est-ce que c'est pas n'importe qui nécessairement qui peuvent aller là, je pense. J'imagine. Je sais pas. En tout cas, dans un stationnement du port, j'imagine que les gens peuvent y aller, mais bref. En tout cas, elle est dans un stationnement. La clé est toujours dans le contact. Les fenêtres sont baissées. Toutes ces choses personnelles sont là. Même, il y a de l'argent liquide, il y a ses cartes de crédit. Tout est là, sauf une chose, qui est son passeport. Moi, ce que je pourrais penser, comme théorie, je lance ça comme ça parce qu'on l'a pas exploité cette théorie là. Bon, c'était une jeune femme quand même de 22 ans au moment de sa dispersion. Est-ce que ça serait possible que, mettons, Elle rencontre l'homme. L'homme, peut-être que l'homme en question... L'homme en bien bleu, etc. Là. Il n'y a peut-être même pas rapport dans cette histoire-là. Peut-être que c'est juste un client qu'elle a rencontré ou que... Je sais pas. Ou juste un homme qu'elle a croisé de même. Juste... En tout cas, homme ou pas homme, mettons, elle va à son véhicule pour aller rencontrer d'autres personnes. Arrivée au véhicule, il y a pas trop de gens, tu sais, il y a pas trop de monde dans le stationnement. Elle se fait menacer avec une arme. Mettons, le même homme la raccompagne à sa voiture. Arrivée à sa voiture, il y a menace. Il y a menace d'embarquer avec elle. Puis au final, c'est du trafic humain, genre. C'est-à-dire que elle ramasse son passeport pour justement aller dans leur pays ou je sais pas. Bref, ils prennent, tu sais, à force à prendre un passeport pour qu'il y aille dans un autre pays pour le trafic humain. Tu sais, je lance ça comme ça, là. Mais c'est une théorie qui pourrait peut-être être possible, c'est-à-dire qu'elle pourrait être encore en vie. Ben aujourd'hui, ça fait 30 ans quand même. Je suis pas sûr qu'elle servirait encore de trafic humain dans la cinquantaine. Mais tu sais, une jeune femme de 22 ans quand même, c'est possible, tu sais. En plus, ce que je trouve vraiment étrange, c'est qu'il n'y a pas de trace de rien nulle part. Tous ses effets personnels sont restés derrière elle, sauf son passeport. Et elle semblait avoir été dans son véhicule, mais comme forcée un peu à sortir. Tu sais, les clés étaient toujours dans le contact, toutes les fenêtres étaient baissées, tu sais. Je veux dire, si tu t'en vas travailler, tu laisses pas les clés dans le contact, premièrement. En tout cas, c'est comme dur parce qu'il y a comme... En tout cas, les clés, il me semble qu'ils étaient dans le contact, selon les informations. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que sa voiture était débarrée avec tout à l'intérieur, c'est-à-dire ses cartes. Il y avait de l'argent liquide, mais tu sais, il y avait toutes ces choses, là. Son sac à main. Je trouve ça étrange qu'elle laisse ça comme ça, puis qu'elle part, qu'elle décide d'aller travailler, tu sais, dans un parking, dans un stationnement où est-ce qu'il y a plein de voitures, puis que n'importe qui pourrait justement y aller, parce que... N'importe quel voleur pourrait rentrer dans un stationnement justement pour aller vérifier toutes les voitures qui sont là. Donc, moi, je trouve ça étrange quand même. Je trouve ça très étrange. On dirait, moi, je pencherais plus vers cette théorie-là plutôt que... Ben, mettons, je dis trafic humain, mais ça peut être un meurtre, là. Genre, elle a été enlevée, violée, tuée, là. Ça peut être ça. Moi, je pense vraiment au kidnapping, en fait, c'est ce que je veux dire, là. J'y crois vraiment plus. Mais reste que, on dirait, il y a tellement d'hypothèses qui peuvent être vraies, tu sais, peut-être qu'elle a fui aussi. Une chose est sûre, moi, j'aurais de la misère à croire qu'elle n'a pas pris l'avion cette journée-là pour fuir, tu sais. En même temps, je me dis, il y avait pas de caméra hein? en 1993 dans les aéroports, tu sais. Ou au moins, je sais pas, il y a quelqu'un qui aurait pu la reconnaître, tu sais, quelqu'un à l'aéroport qui l'aurait servi. C'est vraiment en fait le passeport moi qui vient comme détruire un peu chaque théorie. Parce que si vraiment elle aurait pris l'avion, comme j'ai dit, on l'aurait... J'imagine qu'avec en faisant une bonne enquête à l'aéroport, en parlant aux employés ou en regardant s'il y a des caméras, là. Parce que j'imagine qu'il y avait des caméras en 93, mais je sais pas, tu sais, mais en tout cas... Puis peut-être qu'on l'aurait juste pas reconnu aussi, mais il doit avoir... En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu une enquête, là. Puis si vraiment il y a rien qui a été trouvé... Mais en même temps, les enquêteurs, tout le long, Pratiquement, ils gardaient l'hypothèse qu'elle s'était enfuie. Donc, si elle s'était enfuie, c'est parce que ils étaient convaincus qu'elle aurait pris l'aéroport, mais je peux pas croire que ça n'a pas été confirmé, que ça n'a pas, il n'y a pas personne qui a remarqué cette femme-là. Je sais, il y a beaucoup de monde souvent, là, donc t'as pas le temps de mémoriser un visage, là. Mais en tout cas, c'est les caméras, etc., je sais pas. Bref. Moi, je pense qu'elle a pris l'avion d'une manière ou d'une autre. J'y crois. Sinon, elle avait son passeport sur elle lorsqu'elle a été tuée. Elle avait rien d'autre sur elle, c'est-à-dire elle avait pas son sac à main, puis tout. D'ailleurs, pourquoi elle aurait pas gardé son passeport dans son sac à main, tu sais? Mais non, elle avait son passeport sur elle, puis elle se promenait en s'en allant rencontrer des gens pour le travail. Je trouve ça bizarre. Donc c'est pour ça que je suis un peu convaincu que l'avion, en tout cas l'aéroport, elle a passé par l'aéroport, je pense, avant de disparaître. Je doute fort, très bien, que c'était volontairement. Je pense que c'était de force. Et puis, sinon, son passeport, c'est juste que personne l'a trouvé, là. C'est possible aussi, là, tu sais, je veux dire, elle avait été chercher son passeport, mais je veux dire, je sais pas, elle aurait pu le perdre d'une manière ou d'une autre. De quelconque façon. C'est sûr que c'était pas chez elle, c'était pas dans sa voiture, rien, donc c'était pas dans son sac à main, c'était nulle part. Donc c'est, en tout cas, tout ça est bizarre, tout ça est très étrange. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire. Ah, je sais pas, c'est dur. C'est dur à dire. Bref, j'espère que l'épisode vous a plu. C'est quand même un bon épisode aujourd'hui qui était long. J'ai aimé ce podcast-là, en fait, parce que, tu sais, il n'y a pas de traces physiques de rien, il n'y a pas... Même si on penche plus vers, mettons, l'homicide, là, ben, en même temps, on sait pas si c'est pas volontairement. Est-ce qu'elle a pris l'aéroport? Est-ce qu'elle l'a pas pris, finalement? Pourquoi son passeport est pas là quand elle venait tout juste d'aller le chercher 10 jours auparavant? Si elle était cherchée 10 jours auparavant, pourquoi qu'il est pas dans sa nouvelle maison? Pourquoi qu'il est pas dans son sac à main? Pourquoi il est pas dans sa voiture? Il est nulle part, alors que toutes les autres choses qu'elle possédait, toutes ses cartes de crédit, tout son argent liquide, tout, c'est son sac à main, tout était dans la voiture. Sauf le fameux passeport. Et ça prend le fameux passeport si tu veux passer aux douanes pour t'en aller ailleurs, tu sais. Mais je sais pas comment ça fonctionnait en 1993. Je sais pas si les... Mais me semble que si tu t'en vas dans un autre pays, t'as un temps limite, là. Tu peux pas passer ta vie... Tu peux pas dire, je m'en vais en vacances une semaine. Tu t'en vas finalement en vacances pendant 2 ans, là, tu sais. Je veux dire, à un moment donné... Donc, de ce côté-là, je sais pas comment ça fonctionnerait, à moins que les personnes qui auraient kidnappé, mettons, Catherine, auraient eu leur propre... Tu sais, c'est quand même une organisation criminelle, on va dire. Ils auraient eu leur propre avion, puis... Je sais pas. C'est ça. On dirait que ça fonctionne pas dans un sens. J'ai de la misère à croire que dans la vie, tu peux disparaître juste en changeant de pays. Sans que l'aéroport s'en rende même compte que t'as passé, puis que t'es jamais revenu, tu sais. C'est impossible, en fait, qu'on remarque pas ton départ si tu passes par un aéroport. Donc, il y a tellement de choses qui font du sens, et n'hésitez pas à me corriger si jamais j'ai tort sur certains points. Je sais que sur Spotify, maintenant, vous pouvez parler, vous pouvez commenter le podcast, dans le fond. Vous pouvez dire votre commentaire, ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à me dire justement ce que vous en avez pensé ou si votre théorie ou me corriger si j'ai certaines informations ou répondre à des questions aussi que je me pose. Mais, ouais, je trouve ça étrange. Bref. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est exactement pour des épisodes comme ça que j'adore faire volatiliser. J'aime être un peu dans le déni, en fait. C'est frustrant, par contre. C'est frustrant parce que ça reste... Je veux dire, c'est pas un jeu vidéo, là, tu sais. C'est la vraie vie, c'est une vraie personne qui est derrière tout ça. C'est une vraie famille, etc. Mais en même temps, c'est plus intéressant pour moi, en fait, de parler d'une disparition qui est vraiment mystérieuse, qui a pas de réponse, puis que tout est possible et on peut débattre, en fait, selon les informations qu'on a, plutôt que d'un cas où est-ce qu'on a toutes déjà les réponses sur ce qui s'est passé. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, j'espère, ça fait quand même 30 ans que ça s'est passé. Donc, j'espère que Catherine a finalement trouvé la paix. À un moment donné, je veux dire, j'espère qu'elle a pas souffert longtemps ou que peu importe dans si elle a fui volontairement ou qu'elle a été tuée la même journée ou qu'elle a été kidnappée, que ça a duré des... Tu sais, puis là, j'avoue, on va revenir à l'appel téléphonique anonyme qu'il y avait eu disant que la personne, en fait, disant que l'homme en question avait kidnappé Catherine et il l'avait tuée 2 semaines plus tard. Ce qui n'est quand même pas impossible. Et je comprends pas parce que j'ai pas trouvé d'update sur ça. C'est-à-dire que j'imagine qu'on a voulu retracer l'appel, etc., mais que ça a jamais fonctionné. En tout cas, du moins... Une chose est sûre, c'est qu'on sait pas. Soit qu'on sait pas qui a été la personne, ou soit qu'on a su finalement puis que ça a juste pas donné à rien parce que c'était un canular. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu cet appel-là qui a été fait. Et ce n'est pas impossible quand même, mais en même temps, pourquoi que le tueur voudrait jouer avec le feu comme ça? Je sais qu'on en a déjà vu, là, des tueurs qui appelaient les policiers en disant « Vous allez jamais me trouver » ou... Des trucs comme ça, ça s'est déjà fait à plusieurs reprises, mais je sais pas. Sur une personne disparue, c'est plutôt rare, parce qu'en même temps, c'est plus dans les meurtres, mettons, puis là, la personne est recherchée. Pas quand la victime est recherchée, puis qu'on sait même pas si c'est un meurtre, si c'est... Tu sais, pourquoi tu voudrais faire un crime parfait si c'est pour finalement donner la piste aux policiers que c'est un meurtre? Tu sais? Je sais pas. Bref, c'est possible. J'allais dire, mais on verra, mais en même temps... 30 ans sans... Sans nouvelles informations. Je veux dire, les derniers updates qu'on a, c'est la mort du père de la victime, ben, de Catherine, tu sais, qui est mort en 2017. C'est vraiment le dernier update qu'on a sur l'affaire, puis c'est même pas sur l'affaire. C'est vraiment... C'est tout. Mais, ouais. Ben, je parlais de 2021 tantôt, je crois vraiment que de... 2021... Je sais pas si on a rouvert l'affaire ou on a... En tout cas, il y a pas eu d'update. Fait que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on saura probablement jamais. Il y a aucune trace de rien physiquement. On peut vraiment dire que si c'est un crime, c'est un crime parfait, malheureusement. C'est ça. Donc, c'est triste, mais ça finit comme ça, les amis. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Il y a une petite cloche de notification également que vous pouvez activer. Il y a un épisode aux 3 jours qui est supposé sortir à chaque fois, là, environ. Ça se peut que des fois ça décale un petit peu si je suis vraiment occupé. Mais voilà, ça se peut que... En tout cas, c'est un épisode aux 3 jours, habituellement. jusqu'à ce qu'on atteigne les 10 épisodes. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre le Patreon. Patreon.com/volatilisé podcast ou sinon téléchargez l'application mobile Patreon et dans la barre de recherche, vous écrivez Volatilisé podcast. Si jamais vous voulez avoir du contenu exclusif, c'est des épisodes bonus où est-ce qu'on parle de n'importe quoi. N'importe quoi, mais qui a un lien évidemment avec le mystère et le true crime. On peut parler, je veux dire, d'histoires de meurtres, de disparitions mystérieuses, mais qui ont été résolues ou qui ont pas été résolus, mais qu'on sait à peu près, tu sais, que c'est un meurtre, ou on sait que qu'est-ce qui est arrivé, mais on n'a juste pas de réponse sur la personne, elle est où, c'est qui a fait ça, etc. On parle de mort mystérieuse aussi, que j'adore faire. On parle d'histoire de tueurs quelconques, ou l'histoire de criminels incroyables. Des fois, il y a des histoires de fous, pas juste en lien avec des meurtres, mais des cambriolages, quoi que ce soit. Bref. Épisode bonus, c'est ça. Et ça, il y a plus d'un an, je pense, d'épisodes exclusifs à écouter. Pour si vous vous abonnez au Patreon, ça coûte seulement 3$, puis vous avez droit à plein d'épisodes qui sont disponibles sur le Patreon. D'ailleurs, j'ai recommencé à en faire. J'ai sorti, je pense, deux épisodes, je pense. Récemment. Une ou deux, puis je vais en sortir deux autres, parce qu'il y en a deux autres de près à sortir sur le Patreon. Donc voilà. Donc merci à tous et à toutes. Je vous fais de gros bisous, faites attention. Et d'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Phrase que je n'ai pas dit dans les deux premiers épisodes, parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de podcast sur des disparitions mystérieuses. Et j'avais oublié de le dire, parce que c'était ma phrase d'outro. Mais voilà, mais pour vrai, faites attention à vous, parce que des choses comme ça, ça arrive encore malheureusement aujourd'hui, donc... ne vous empêchez jamais de vivre votre vie. Par contre, soyez conscient et faites attention à vous, parce que je veux pas devoir à faire un épisode à votre nom. Donc voilà. Gros bisous, prenez soin de vous. À dans 3 jours. Salut tout le monde.